Alors maintenant, on va écouter la dernière intervention, qui est celle d'Adrien Péquignot. Alors Adrien, je te présente. Donc tu es à la fois doctorant donc en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris 8, mais tu es et as été longtemps informaticien, Adrien, n'est-ce pas? Et je ne sais pas, ingénieur en informatique, c'est bien ça, voilà. Et donc, depuis quelque temps, Adrien s'est lancé dans une recherche doctorale qui porte sur l'étude d'un chatbot conversationnel, hein, pour étudier justement les nouvelles formes de relations sociales qui s'expérimentent dans ces médiations augmentées. Hein, ce qui rejoint évidemment tout le thème de notre journée sur nos liaisons numériques. Et donc, ça s'expérimente dans ces médiations qui sont algorithmiques, hein, puisque donc les chatbots fonctionnent comme des algorithmes. Et ça te permet, tu es dans ta thèse, tu vas identifier des valeurs et des visions qui sont portées par ce monde des algorithmes. Et tu as envie aujourd'hui de nous parler, enfin, tu vas nous parler aujourd'hui d'un ouvrage de Zoé Beloff qui s'appelle Technique de la distraction, qui est d'abord paru en 2016 suite à une exposition, hein, et qui est ensuite paru en 2018 aux précieuses éditions des Presses du Réel. Voilà, et le titre de ton intervention, donc, c'est Ce qui se joue lorsque les émotions vont au travail, à propos de l'œuvre de Zoé Beloff. Merci à toi, Adrien.
Merci Julie, merci aussi à Sophie Gel de m'avoir donné l'opportunité d'intervenir dans cette table ronde. Donc au cours de cette intervention, je vais essayer de montrer comment l'artiste Zoé Beloff, avec certaines installations de son exposition... Ouais, ok. Ça marche mieux comme ça?
Oui.
Ok. Donc, je vais essayer de vous montrer comment l'artiste Zoé Beloff, avec certaines installations de son exposition qui s'intitule « Les émotions vont au travail », éclaire certains des enjeux contemporains dans nos liaisons aux dispositifs numériques. Donc, Zoé Beloff est une artiste écossaise qui vit à New York depuis les années 80, et elle a été, pour la situer, nourrie intellectuellement par l'école de Francfort, notamment par Walter Benjamin, qu'elle évoque souvent dans ses écrits. Et toutes ces expositions s'articulent autour d'un thème et elles mobilisent plusieurs types de supports. Hein. Ça peut être des films, des peintures, des dessins, mais aussi des documents d'archives. Et un motif revient dans l'ensemble de son œuvre, c'est ce qu'elle appelle la vie rêvée de la technologie, c'est-à-dire qu'elle essaye d'imaginer des devenirs possibles de la technologie en mélangeant souvent passé, présent et futur. Et donc, on associe souvent l'œuvre de Zoé Beloff au courant de la recherche de l'archéologie des médias. Et elle met en lien donc le présent et le passé, ce qui lui permet de questionner notre présent depuis le passé, mais aussi de voir dans le passé des potentialités en latence ou en puissance pour penser donc l'avenir. Et elle accompagne tous ses projets et expositions d'écrits, ce qui illustre la diapositive ci-contre, hein, qui accompagnait un CD-ROM qui s'appelle Beyond, qui est paru en 1999, et cet article lui a été publié dans la revue Trafic, le numéro 30 de la revue Trafic en 1999. Donc il me semble important de situer l'exposition dont je vais vous parler, hein, les émotions vont au travail, dans l'œuvre de Zoé Beloff. Comme nous le verrons, cette exposition, elle parle beaucoup des risques qui sont liés aux formes actuelles de développement de la technologie, dans les relations que nous entretenons avec ces dispositifs notamment. Et si l'exposition dont je vais vous parler est très critique et évoque davantage les risques que les potentialités des technologies, il ne faudrait pas en déduire ou croire que Zoé Beloff est réticente ou hostile à la technologie. Elle cherche à voir les problèmes que posent leurs conceptions contemporaines et leurs possibles évolutions. Et d'autres de ces expositions, comme Dreamland, la société psychanalytique amateur de Coney Island, par exemple, présentent au contraire des potentialités permises par la technologie. Et donc ces deux dimensions, en fait, elles sont donc utopie et dystopie, elles sont indissociables dans l'œuvre de Beloff, et il faut bien saisir cette dialectique pour comprendre les investigations qu'elle mène. Alors, Zoé Beloff présente son exposition « Les émotions vont au travail » comme une enquête sur la manière dont nos émotions ont été transformées en biens de consommation et comment ces émotions sont instrumentalisées par certaines multinationales. Et Zoé cherche à saisir une mutation en cours, la mise au travail des émotions, c'est-à-dire la manière dont ces émotions ont été transformées en marchandises via les technologies numériques de l'Internet des objets notamment. Et cette exposition nous questionne sur la manière dont les technologies sont utilisées pour ce qui a trait à la collecte de données. Nos émotions, en fait, sont devenues des données pour pouvoir devenir échangeables. Et Zoé Beloff parle de transformation des émotions en capital. Donc, ce sont en fait les objets connectés de l'Internet des objets qui mettent nos émotions au travail, notamment via nos smartphones. On peut parler de travail car nous produisons de la valeur par nos commentaires, nos likes et nos évaluations. Nous travaillons donc lorsque nous utilisons les dispositifs connectés de l'Internet des objets parce que nos réactions contribuent au perfectionnement de ces dispositifs, et ceci sans forcément que nous en ayons conscience. Et cette mise au travail, elle est facilitée par la manière dont les technologies numériques sont conçues aujourd'hui, technologies qui sont saturées de métriques, d'instruments de mesure. Et voilà, toutes les activités en ligne sont mesurées et tous ces échanges sont ramenés à des standards et à des équivalences, indépendamment de la question du sens et du contexte. En enregistrant nos émotions et réactions dans de gigantesques bases de données, en croisant ces données collectées, les entreprises ont donc la possibilité de nous proposer de nouveaux services ou de nouveaux produits qui capteront encore davantage notre attention en étant capables d'anticiper encore davantage nos désirs ou de répondre à nos frustrations. Zoé Beloff voit certains aspects du futur d'une manière assez sombre. Elle voit un risque d'anthropomorphisation de certains gadgets de l'Internet des objets afin qu'ils puissent séduire les utilisateurs et les inciter à livrer toujours davantage de données personnelles. Et donc elle imagine que dans le futur, ces objets connectés vont encore davantage chercher à exploiter notre affectivité, nous rendre dépendants à eux pour justement être en mesure de collecter davantage de données, ce qui illustre par exemple ces deux dessins qui représentent justement des données connectées, donc une machine à laver, enfin des objets connectés à Internet, une machine à laver en l'occurrence et une ampoule. Zoé Beloff, en fait, elle critique la séduction qu'opèrent ces objets connectés qui donc simulent des soins ou une sensibilité, ceci uniquement dans le but de capter notre attention. Et donc, elle nous questionne par ses dessins sur nos relations à ces objets. En fait, est-ce que ce sont eux qui sont à notre service, ou alors est-ce que c'est l'inverse justement? Est-ce que c'est nous qui sommes à leur service? Donc, nos émotions sont au travail, donc, et Zoé Beloff cherche à nous rendre ce travail visible. Et on n'a pas nécessairement conscience de cette mise au travail de nos émotions, car cette mise au travail, elle prend parfois une tournure ludique, elle est parfois volontaire aussi. Par exemple, lorsque nous postons des réactions sur Facebook ou lorsque nous évaluons des produits en ligne. Ce travail est d'autant moins visible que nous ignorons généralement les intentions des fabricants de dispositifs qui constituent l'Internet des objets. Leurs concepteurs sont plutôt discrets sur ce point, et évidemment, ils n'autorisent pas l'accès au code source de ces applications, et encore moins aux données qui sont collectées, et encore moins à ce qui est fait de ces données collectées. Donc, Zoé Beloff nous présente une vidéo qui s'intitule « The Cognitive Era », qui est un détournement d'une publicité réalisée par IBM à destination des entreprises pour leur présenter les possibilités permises par l'Internet des objets afin d'accroître leurs bénéfices. En voici. Voilà, je vous laisse regarder cette vidéo. Si elle veut bien se lancer.
Tu as le son ?
Il n'y a pas besoin de son, il n'y a pas de son. Voilà. Elle dure 3 minutes. Donc c'est typiquement le genre de c'est vraiment elle a repris les codes visuels des communications qui sont faites par IBM. J'ai vu il y a quelques semaines une entreprise française a fait une communication, c'est exactement les mêmes codes visuels. C'est vraiment, toutes les entreprises utilisent ces codes visuels aujourd'hui. C'est un détournement en fait de ces publicités pour montrer les risques, les détournements au sens situationniste, hein, pour montrer les risques liés à l'Internet des objets. IoT, c'est Internet of Things en anglais, donc l'Internet des objets. Là, en fait, c'est Barbie, c'est une Barbie avec. avec laquelle on peut interagir, qui est représentée ici. C'est une Barbie connectée. Le détournement opéré par Zoé Beloff vise à nous montrer la face cachée de l'Internet des objets, c'est-à-dire les risques que ces dispositifs numériques portent, mais aussi le type de société que ces technologies et ces entreprises surtout conduisent à façonner. Donc, il vise, ce détournement, à mettre en lumière des nouvelles formes de pouvoir qui apparaissent avec le développement de ces dispositifs. Mais Zoé Beloff ne se contente pas de signaler des risques possibles. Elle explore également plus en détail les manières dont nos émotions sont mises au travail. Et dans ce contexte, les emojis, c'est-à-dire les symboles que l'on retrouve sur les smartphones, les tablettes, les ordinateurs ou les réseaux sociaux, ces emojis donc sont importants. Ils sont le langage commun entre nous et les dispositifs techniques. Ils fonctionnent comme des interlocuteurs entre les gens ordinaires et les multinationales. Ils facilitent la conversion de nos émotions en données. Zoé Beloff dit que ces emojis constituent une monnaie émotionnelle. Ils ressemblent à de petites pièces d'or et ils permettent de convertir notre investissement affectif en valeur financière. Donc, ce que nous montre Zoé Beloff, c'est que ces emojis ont des effets idéologiques. Ils produisent aussi des manières d'être collectives. Et communiquer avec des émotions standardisées conduit à une limitation et à une standardisation des émotions. Et... Donc il y a donc pour Zoé Beloff un risque de normalisation des émotions avec l'utilisation massive des emojis, donc une limitation des expressions qui dériverait des emojis, ce qu'elle met en scène dans une vidéo. Donc là, je ne vais pas vous diffuser la vidéo, mais je vous ai juste fait une capture d'écran où justement elle montre en fait que voilà, c'est des visages donc humains qui ressemblent à des emojis pour montrer qu'on risque de devenir similaire à ces emojis à force de les utiliser en fait avec le temps. Donc, mettre en lumière certains risques liés aux dispositifs de l'Internet des objets ne vise pas à nous rendre hostiles ou réticents à l'égard des technologies, mais à saisir les enjeux contemporains, notamment les jeux de pouvoir qui apparaissent avec ces dispositifs. Nouveaux terrains qui permettent notamment qui visent à des modifications comportementales parfois. Zoé Beloff ne se contente pas de dépeindre donc d'une manière dystopique des futurs aux aspects indésirables. Elle présente une posture également dans cette exposition, une posture qui consiste à faire un pas de côté par la distraction. Elle nous incite donc à faire un écart au sens philosophique du terme, un écart où l'émancipation peut prendre sa source, et un écart qui serait le support à de nouvelles pratiques collectives où se fabriquent du commun, des expériences communes et des communs, donc des biens communs. Je vais, pour terminer cette intervention, vous présenter brièvement les deux voies que propose Zoé Belloff pour faire cet écart, ce pas de côté, donc le rêve et le jeu. Alors, la première, qui revient dans l'ensemble de son œuvre, par ailleurs, c'est le rêve, la figuration par le rêve. Donc, un rêve d'autres types d'interactions entre les gens et les objets pour penser d'autres mondes qui sont possibles. Et pour ce faire, Zoé Belloff s'inspire des artistes du début du XXe siècle. Elle utilise le passé non pas par nostalgie, mais pour faire émerger donc des possibilités qui sont latentes. Et voilà, c'est ce qu'elle fait, notamment en s'inspirant d'un dessin animé qui s'appelle Ha 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 de Dave Fleischer, dont je vais vous montrer un tout petit extrait qui dure un peu moins d'une minute. Ah. Voilà. Ouais, c'est Betty Boop. Ouais. C'est pas rien, ça. Pas de son. Ce qui est intéressant dans ce dessin animé, c'est que les objets qui se mettent à rire sont des objets techniques ou liés à l'infrastructure, en fait. Tout d'abord une horloge, ensuite une machine à écrire, une boîte aux lettres, un pont, des voitures. Donc ce que nous montre ce petit cartoon, c'est que ce sont les objets eux-mêmes qui sont subjugués et dépassés par l'affect et qui cessent alors d'être fonctionnels et qui cessent alors de travailler, justement. Et donc là est un horizon justement pour voilà, c'est un des horizons donc justement pour arrêter de mettre les émotions au travail, c'est d'arrêter de travailler par le débordement, par l'affect. Voilà une donc, et le rêve est la voie privilégiée pour y parvenir. Voilà quelle est la première voie que nous présente Zoé Belloff. Donc c'est un horizon qui nous paraît sans doute éloigné aujourd'hui. Évidemment, je ne pense pas que demain il se passe des choses similaires dans la vraie vie à ce qu'on vient de voir dans ce cartoon-là, mais Zoé Belloff a bien évidemment conscience de ça. Mais l'idée, c'est vraiment que le rêve soit une première étape pour que de tels possibles puissent éventuellement advenir. Et la deuxième piste que Zoé Belloff nous présente, c'est le jeu. Alors, mais pas le jeu au sens de la gamification de l'existence, hein, qui est une forme de soft management, du nudge ou de l'incitation à aller dans une certaine direction. Quelque chose d'assez présent dans la société contemporaine. Donc le jeu au sens de la gamification, c'est quelque chose qui a une mécanique, un objectif précis, par exemple nous faire revenir sur une application. Le jeu au sens où l'entend Zoé Belloff, c'est au contraire, c'est à l'opposé de ça. C'est un certain mode d'être aux objets techniques qui consisterait là, en l'occurrence, justement à ne pas prendre trop au sérieux les émotions que simulent les objets empathiques. Donc d'avoir des relations avec ces objets, mais sans prendre au sérieux les intentions leurs concepteurs veulent mettre à l'intérieur donc de ces objets. Et donc cette posture de jeu, elle permet d'instaurer une distance dans nos rapports à ces objets connectés. Et tout l'enjeu consiste justement alors à ne pas entrer dans le jeu des algorithmes, mais à créer du jeu dans la mécanique bien huilée des patterns élaborés dans les laboratoires de la Silicon Valley, en imaginant donc d'autres modes de relations que ceux qui sont préordonnés par les dispositifs techniques. Et donc, c'est un jeu. Ce jeu, en fait, permet d'introduire une part d'indétermination dans les agencements dynamiques de patterns contemporains. Voilà, il permet, le jeu, de faire émerger du nouveau, de l'inattendu, de l'inouï, c'est-à-dire ce qui résiste au calcul. Et ceci me semble faire écho, par exemple, entre autres, à certaines voies qui sont proposées par Franco Berardi dans The Uprising, qui parle, lui, d'échanger à l'ordre de l'échangeabilité. Et voilà ce qui, à mon sens, se joue, en tout cas, pour lorsque nos émotions vont au travail. Ce qui se joue, donc, ce sont les relations sociales de demain, et le rêve et le jeu permettent un pas de côté pour imaginer un autre ordre social. Voilà, je vous remercie de votre attention.